Merci, nos musiciens préférés. Vous allez bien aujourd'hui?
Oui.
Super, moi aussi, c'est incroyable. On est combien aujourd'hui? Le 12. On dirait un été, hein? 12 octobre. Bon, bien bonjour à ceux qui nous rejoignent sur Internet, Dieu vous bénisse. Je reviens sur mon message de vendredi soir. Et quand Jésus nous enseigne comment prier, il nous dit que ton règne vienne. Je vous disais que ce royaume, il est en nous. Jésus dit, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Enfin, vous écouterez mon message de vendredi si vous voulez en savoir davantage, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est ce que Jésus dit. Et en le disant, il dit une des vérités les plus importantes qui ait été dites. Si l'homme a été fait à l'image de Dieu, le péché n'est donc pas un état naturel pour l'homme. Parce que Dieu est sans péché. Bon, je sais que pour les incroyants, les chrétiens sont un peu des anormaux. Mais en réalité, ce sont les irrégénérés qui sont des anormaux. N'est-il pas logique de dire que le péché n'est pas naturel pour l'homme, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu qui est parfait? Alors ils disent, oui, mais alors pourquoi le mal? On va y venir. C'est donc le vrai chrétien qui est une personne normale. Je dis bien le vrai chrétien, hein, parce que vous avez des chrétiens, bon, enfin, de nom, de culture, voilà, mais qui ne sont pas vraiment nés de nouveau. Tous les autres sont des anormaux. Désolé, mais c'est comme ça. Vous n'avez qu'à lire les journaux, vous n'avez qu'à regarder la télé, Internet, tout ce que vous voulez. C'est pourquoi vous apercevez que des non-chrétiens sont des êtres frustrés, dans la défaite, avec des soucis, des problèmes. Vous allez me dire, oh, mais les chrétiens aussi, ils ont des problèmes et tout. Non, c'est pas pareil. Parce que un non-croyant ne met pas son espoir, ni sa foi, ni sa confiance dans un être supérieur. Un chrétien, il sait que Dieu dirige tout, conduit tout. Et il a foi, et il peut rester dans la paix. Il se confie pas dans un Père céleste, et c'est pourquoi il vit dans un univers saturé de tensions nerveuses. Je le disais hier, suite à ce qui s'est passé en France, non, je vous dirai pourquoi. Je pense que vous êtes tous au courant. Je le disais hier, et c'était une personne âgée qui disait, je crois que le monde est devenu fou. Ah bon? Ils aperçoivent ça de ça ce mot maintenant. Il a raison, c'est vrai. On a connu bien des époques difficiles, mais il faut dire que il y a beaucoup de gens qui vivent dans un climat d'insécurité terrible dans tous les domaines. Et vous savez pourquoi le monde devient fou? Ben c'est parce que les gens ne se suffisent pas à eux-mêmes. On ne se suffit pas à soi-même. Un être humain ne peut trouver de sécurité que dans la puissance d'une personne qui lui est supérieure, notre Dieu qui nous a créés. Voilà pourquoi toute cette confusion, voilà pourquoi toutes ces frustrations, voilà pourquoi toutes ces tensions nerveuses, toutes ces angoisses, toute cette confusion. Tout cela est inévitable pour la personne qui n'a pas trouvé, qui ne s'est pas trouvé en Dieu, en qui Dieu ne règne pas. Que ton règne vienne. Où ça? En moi, en toi. Et s'il n'est pas en toi, s'il ne règne pas en toi, ben t'es dans la confusion, t'es dans... Voilà. Et puis alors, il se moque de nous, parce qu'on prie, parce que nous avons foi dans notre Père Céleste, il se moque de nous. Ils disent qu'on a un ami imaginaire. Ouais. Ouais. On va lire Matthieu chapitre 5, verset 48. Matthieu 5, 48. Voilà ce qui est dit. Vous donc, C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Soyez parfaits, tout comme votre Père céleste est parfait. Jésus faisait allusion à l'amour parfait, parce que Dieu est amour, il est juste, il est amour. Et il donne un exemple dans Matthieu 5, 39. Voilà ce qu'il dit. N'opposez pas de résistance violente à celui qui vous veut du mal, mais au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, présente-lui aussi la gauche. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, donne-lui volontairement ton vêtement en plus. Et si quelqu'un vient te réquisitionner pour t'obliger à lui porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres pour lui. Donne à celui qui le demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez appris qu'il a été dit, tu témoigneras de l'amour à ton ami et tu auras de la haine pour ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, témoignez de l'amour à vos ennemis et priez pour ceux qui vous poursuivent de leur haine. Ainsi vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants et aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui font sa volonté comme à ceux qui ne la font pas. Voilà ce que Jésus dit. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont terriblement toxiques, et je l'ai connu, flopé. Et je me suis séparé pour mon bien, simplement par prudence, parce que la Bible dit aussi, soyez prudents, on n'est pas obligé de les haïr. Si vous les haïssez, vous les transformez en problème, et vous les aurez encore sur le dos, alors que vous vous séparez, et puis voilà, Seigneur bénit l'autre là-bas. Vous ne le verrez plus comme une personne toxique dont vous vous êtes séparé comme par prudence, comme un serpent qui dit, Jésus dit, soyez comme un serpent prudent. Mais si vous continuez à le haïr, il sera toujours un problème. Voilà pourquoi la solution à vos problèmes se trouve là où votre Père règne. En vous, en moi, en toi, en moi. Bien sûr, nous attendons que Jésus revienne sur la terre pour y régner et détruire le diable et tous ses suppôts. Mais avant cela, que le règne de Dieu soit en vous, que votre Dieu soit votre roi. On peut pas faire n'importe quoi en disant que ton règne vienne nous débarrasser de ceux qui nous embêtent, et puis en attendant, on fait ce qu'on veut. Maintenant, Jésus poursuit et dit que ta volonté soit faite. La vie, c'est ce qui compte le plus pour lui, et il n'y a rien de plus important pour Dieu sur la terre que la vie humaine. Et pourtant, il semble que l'homme, il arrive à un point où la vie humaine n'a plus beaucoup de valeur. Et il y a une raison à ça. Les journaux racontent jour après jour des horreurs, mais des horreurs, des accidents tragiques, des catastrophes qui entraînent la mort de beaucoup de gens, et c'est devenu un peu la norme, quoi. On s'y habitue, parce qu'on est informé, trop informé, et on s'habitue et ça, on devient insensible. Comme les incroyants qui pensent qu'ils sont dans la norme, le monde, et même les chrétiens saturés de mauvaises nouvelles, pensent que tout ça, c'est tous ces morts, c'est normal, que c'est la norme. Non, c'est pas normal. Je dis tout ça pour vous faire comprendre qu'il existe une volonté au ciel pour chaque vie, pour chaque être humain, et qu'il y a aussi une volonté pour toute vie et tout être humain sur la terre. La volonté inscrite dans les cieux est celle de Dieu, et la volonté qui s'exerce sur la terre, c'est la nôtre. Ce sont deux volontés séparées. Relisez ce texte, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire que nous avons à prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Parce que pour le moment, elle n'est pas faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Pourquoi ? Parce que c'est notre volonté qui s'exerce. Au jardin de Gethsémané, Jésus disait « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». On trouve ça dans Luc 22, 42, 43. Avec la communauté, on regarde la série « Chosen » que je vous recommande. Et on est arrivé à la dernière saison où on voit Jésus dans le jardin de Gethsémané qui dit « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». On va lire aussi Jean 6, 38, 40. Jean 6, 38, 40. Ça n'existe pas. Ah si, excusez-moi. Je suis dans un Jean. Ah là là. Jean 6, 38, 40. Voilà, c'est là. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour agir au gré de mes désirs ou de ma volonté, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus avait sa propre volonté humaine. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a confiés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, c'est la volonté de mon Père que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent dès à présent la vie éternelle, et moi je les ressusciterai le dernier jour. Ça, c'est la volonté du Père. Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire sa propre volonté. Ça signifie qu'il en avait une qui était contraire à celle du Père. Ah! Il avait une volonté humaine, comme vous, toi et moi. Il avait des pensées terribles qui lui traversaient l'esprit des fois. Est-ce que vous avez déjà réalisé qu'il avait des pensées de meurtre? Lisons Matthieu 26, 53. Matthieu 26, 53. Je le trouve. C'est Jésus qui parle et dit, penses-tu donc que si je le voulais, il ne me serait pas possible de faire appel à mon Père à l'instant même, il enverrait plus de 100 000 anges à mon secours. Mais alors, comment se réaliserait la prédiction des Écritures qui annonce que tout doit se passer ainsi? Il a pensé, je dis à mon Père, d'envoyer des anges, et il découpe mes ennemis en petits morceaux. C'est une pensée qui doit traverser l'esprit, si je le voulais. Mais il ne voulait pas, il voulait que la volonté du Père soit faite, mais lui et sa volonté, il aurait pu, il voulait, s'il l'avait voulu, il aurait pu. Et le Père aurait fait sa volonté, il aurait exaucé. Il dit, mais si j'avais demandé ça, puis que ça se passe, si tous ces gens qui viennent m'arrêter pour me fouetter, me crucifier, ben j'aurais jamais été à la croix, j'aurais jamais porté le péché du monde. Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire sa propre volonté, parce qu'il avait une volonté humaine comme nous, mais il n'est pas venu pour la faire, et nous ne sommes pas là pour faire notre volonté, mais la volonté du Père. Alors quand Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, il nous demande, faites la volonté du Père, et non la vôtre. Vous voyez, il avait des pensées humaines qui traversaient son esprit. Si je le voulais, je pourrais faire, et il serait à tous. Coupé cabèche, mais il savait qu'il était venu pour accomplir non pas sa volonté, mais celle de son Père. Donc sa volonté, c'était bien que, ils crèvent tous. Il voulait échapper à tout ça. Vous voyez ? Chaque fois que vous priez, pensez-y, que ta volonté soit faite. Évidemment, nous savons certaines choses au sujet de la volonté de Dieu. Donc, ce que nous savons de ce qu'il veut, nous pouvons le lui demander avec foi, puisque nous savons qu'il le veut. Alors, 1 Jean 14, qu'est-ce que je vous raconte ? 1 Jean 5, 14, il dit, c'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance, nous sommes certains que si nous demandons une chose conforme à sa volonté, il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons en même temps la certitude que l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, est déjà à nous. Vous voyez ? Si, mais si vous demandez quelque chose selon sa volonté, si vous demandez la mort de vos ennemis, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, parce que Dieu ne veut qu'aucun pécheur ne meure, mais qu'il se repente. Nous savons que Jésus a porté nos péchés et nos maladies à la croix, donc nous savons qu'il veut nous guérir. Donc on peut prier avec foi pour la guérison. Vous me direz, oui, mais il y en a beaucoup qui meurent. Oui, mais il faut bien qu'on meure de quelque chose. Alors d'un accident, de vieillesse, de maladie, de n'importe quoi. Dieu tient tout dans sa main, mais en attendant, il a porté nos maladies, c'est écrit point barre. Donc on peut prier avec foi pour être guéri. Quand il a créé les mondes, il avait un plan parfait. Il savait que les gens chuteraient. D'ailleurs, c'était voulu. C'était voulu. Parce que ça manquait à Dieu d'être sauveur. C'est une chose qui lui manquait. Il n'avait pas, il n'était pas sauveur. Il était sauveur dans son cœur, il était guérisseur dans son cœur, il était compatissant dans son cœur, mais il n'avait personne à sauver. Vous allez me dire, oh, c'est monstrueux. Pense ce que tu veux. Quand Dieu a créé les mondes, il avait un plan parfait, il savait qu'on tomberait, et il avait préparé un plan du salut, parce que Dieu n'est jamais approximatif dans ce qu'il fait. Il faut que tu comprennes que ses pensées sont bien au-dessus des tiennes. Dieu avait un plan parfait pour Adam. Dieu n'était pas dans le jardin, derrière un arbre, en train de se dire « Oh là là, Ève, elle est en train de manger le fruit défendu. Oh mon Dieu, quelle horreur !» Non, il savait. Il y avait un plan aussi pour Abraham, pour Élie, pour Enoch, pour Paul, pour toi, pour moi, pour tout le monde. Il a un plan pour tout le monde. Et tous les démons ne pourront jamais me faire démordre de cette conviction. Jésus savait pourquoi il était né. Il savait pourquoi il était né. On trouve ça dans Jean 18, 37. Je ne sais pas si je vais le trouver. Jean 18, 37. Il répond à Pilate, il dit, tu as raison, je suis roi. Voici pourquoi je suis né et pourquoi je suis venu de ce monde. C'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui aime la vérité écoute ce que je dis. Voilà. Il savait pourquoi il était là, hein. Moi, il m'est arrivé au début de ma vie chrétienne, pas longtemps, hein, mais au début de ma vie chrétienne, de juin à septembre 68. De me demander, mais je suis venu sur cette terre, pourquoi ? Maintenant que Jésus m'a pardonné, ben, je vais faire quoi ? Je suis venu pourquoi ? Et j'ai prié. Je me rappelle, je travaillais dans une usine de journaux pour pouvoir payer mes études à l'école biblique, et j'habitais, il y avait une vieille sœur de l'église qui m'avait accueilli, j'allais dormir chez elle. Je me rappelle plus son nom, on l'appelait Lupin parce qu'elle ressemblait à un personnage de dessin animé qui s'appelait Lupin. sur Lupin. Et là, je passais des nuits à prier, mais Seigneur, tu veux que je fasse quoi? C'est le pasteur qui voulait que j'aille à l'école biblique. Alors Dieu m'a répondu, et je sais pourquoi je suis né. Je sais pourquoi je suis né. Et maintenant, 57 ans après, je vois que ce que Dieu m'a dit, ben, il ne m'a pas menti, c'est arrivé. Je sais pourquoi je suis né, je sais pourquoi je suis là. Ça me donne un grand calme. Tout repose dans les mains de Dieu. Je lisais ce qu'une célèbre artiste française disait la semaine passée, la pauvre. Elle disait « J'en ai marre de vivre, je voudrais être enterré loin des cons. » Je pense que vous l'avez lu aussi. Un chrétien ne dira jamais une chose pareille. Un chrétien, il attend que Dieu lui dise « C'est ton heure, rentre à la maison. » Il y a des jeunes qui meurent, et beaucoup disent, mais c'est pas juste, il avait toute sa vie devant lui, c'est pas normal. Je sais que ça fait souffrir. Et je sais pas pourquoi ça arrive, mais je sais que Dieu est à la barre. Je sais que Dieu est à la barre. Vous avez peut-être l'impression du fait que vous n'êtes pas grand-chose, que... vous n'êtes pas ou vous n'êtes plus important. Beaucoup de personnes âgées m'écrivent en me disant « Oh, je suis plus important pour personne, toute ma famille est décédée, ou alors mes enfants ne viennent plus me voir à l'EHPAD, je suis tout seul, je ne sers à rien du tout. » Pensez pas ça, c'est des pensées humaines ça. Vous avez une vie, et quand vous vous endormez, vous ne pouvez pas faire revivre une seule opportunité, un seul instant de la journée passée. Quand vous m'écrivez là sur votre téléphone que vous ne servez à rien, ce téléphone il peut servir à rendre témoignage à des milliers de personnes. Vous savez ce message que je enregistre là en ce moment dans la communauté? Mais des milliers de personnes l'écoutent grâce à Internet. Et vous pouvez faire la même chose. Être utile, très utile. Ne dites pas « je ne sers à rien », c'est pas vrai. Puis les gens vous écriront, et puis vous prierez pour eux. Nous, on a une quantité de personnes qui nous demandent la prière. On n'est pas inutile, même vieux. Vous savez quoi? On a un drôle de mélange d'éternité et de matériel. On a un drôle de mélange. Votre corps retournera à la poussière d'où il est venu, comme dit la Bible, mais votre être, c'est-à-dire votre âme, elle est éternelle. Rien ne peut la détruire, il n'y a que Satan qui peut... Enfin, non, il n'y a que Dieu qui peut la détruire en l'envoyant en enfer, mais bon, il ne veut pas le faire, il veut que vous vous repentiez, c'est tout. Et que vous commenciez à faire sa volonté, non plus la vôtre. Elle a de la valeur, votre vie, devant l'Éternel, notre Dieu, devant votre Père. Vous ignorez qu'elle en a, ou vous pensez qu'elle n'en a plus beaucoup, vous êtes né avec une volonté séparée de quiconque, votre volonté c'est la vôtre, vous êtes libre d'exercer cette volonté, vous êtes un agent moral libre, vous pouvez faire de votre vie ce que vous voulez. Je me rappelle, on en était chez Frère Osborne. Et il avait organisé une réunion avec ses meilleurs amis et pour que Michou et moi on rende témoignage de ce qu'on faisait en France. On était à Tulsa, Oklahoma, en Amérique. Et là, il y a un homme qui est arrivé sur une chaise roulante, vraiment mal en point. Et Frère Osborne nous l'a présenté. Et cet homme-là, il passait sa vie à faire des visites en prison. Et il emmenait un nombre incalculable de personnes à Jésus. Par son témoignage, parce qu'il avait de l'amour. Les gens voyaient qu'il souffrait. Ils étaient étonnés de voir que quelqu'un qui souffre comme ça peut aimer Dieu et ne se révolte pas contre Dieu. Vous voyez? Vous pouvez faire de votre vie ce que vous voulez. Faites ce que Dieu veut. Voulez, vous faire la volonté de Dieu. Il y a un grand nombre de gens qui vivent dans l'échec, dans la défaite, ils sont harcelés par des problèmes, mais ils auraient pu avoir une vie d'une puissance spirituelle magnifique. Ils auraient pu vivre dans la victoire s'ils avaient soumis leur volonté humaine à la volonté divine, à la volonté du Père. Vous savez, quand j'avais 12 ans, j'avais dit à ma mère, moi j'aurais réussi ma vie quand je serai marié, que j'aurai une cheminée, que je lirai mon journal, que je boirai mon whisky, que ma femme m'apportera, et que j'aurai un boxeur qui sera à mes pieds. Là, je pourrais dire que j'ai réussi ma vie. Mais ma volonté était une petite volonté idiote, étriquée. Heureusement, j'ai changé. Hein. Un jour, là, c'est ma mère qui m'a raconté, je ne m'en rappelle pas, mais ma mère m'a raconté que quand j'avais 2 ans, j'avais dit à ma mère, moi je vais être pasteur parce qu'il travaille que le dimanche. Et j'avais une volonté de très... Oh là là. Chaque personne fait usage de son libre arbitre, c'est-à-dire de sa propre volonté humaine, et choisit ou non de recevoir Jésus et son pardon et sa royauté. Vous êtes libre de recevoir Jésus. Jésus lui-même avait une volonté séparée et distincte de celle de son Père, je vous l'ai démontré. Mais il a dit et il a voulu que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Amen. Faites pareil et tout commencera à aller très bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.